Et tout de suite, on reçoit Anthony Hamon, docteur en histoire contemporaine et spécialiste du 19e siècle. Ce soir, dans l'émission, on parle origine du productivisme agricole.
Bonjour Anthony Hamon.
Bonjour.
Donc vous êtes docteur en histoire européenne, on l'a dit, votre thèse c'est instruire et interroger l'identité agricole de la France, l'enquête sur la situation et les besoins de l'agriculture entre 1866 et 1870. Cette enquête, c'est une enquête réalisée en Europe au cours du 19e siècle, 38 volumes, 20 000 pages, et puis une projection de cette enquête hors des frontières de la France, puisque c'est 31 États qui sont convoqués au sein de cette enquête. Alors le 19e siècle, il est quand même assez vaste, hein. Il y a eu l'Empire sous Napoléon, la Restauration, la Monarchie de Juillet, l'Empire sous Napoléon III... Pourquoi avoir choisi cette deuxième partie de l'Empire de Napoléon III ? Parce qu'il y a aussi des périodes au sein de ce second empire.
Alors, vous avez oublié la Troisième République.
La Troisième République,
pour
pardon.
Pour terminer le 19e siècle. Cette enquête, elle a lieu donc de 1866 à 1870. Hein, donc, on est les quatre dernières années du second empire, sous le règne de Napoléon III. Cette enquête, c'est ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, n'est pas, enfin, sa date de lancement n'est pas un hasard. Hein, c'est vraiment, il y a un contexte très particulier. Il y a même, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. L'Empire, le Second Empire, tout particulièrement, est vraiment peut-être pour le 19e siècle, et si même on prend toute l'époque contemporaine de la France, vraiment, constitue vraiment l'âge d'or des campagnes, hein, et de l'agriculture en France. Et on peut dire que cette enquête, je reprends une expression que j'ai trouvée au cours de mes recherches, hein, c'est vraiment peut-être le plus bel éloge que l'État a fait pour les campagnes et plus généralement, comme on le disait à l'époque, pour les paysans.
Oui, parce que 30 000 pages, est-ce qu'on a un exemple ensuite d'une telle enquête avec de telles sources ? Parce qu'il y a aussi un questionnaire, hein, qui est donné au conseil d'administration, aux sociétés agricoles. On a vraiment quelque chose d'ampleur ici.
Oui. C'est la plus grande enquête vraiment effectuée par un État européen, hein, je précise bien par un État, hein, parce qu'il y a des enquêtes aussi effectuées par des particuliers, mais là c'est vraiment la plus grosse enquête effectuée par un État européen au 19e siècle. En termes, donc, le questionnaire, vous en avez parlé, hein, il fait plus de 160 questions, ça fait qu'environ 80 pages, hein, un cahier de 80 pages.
Plus que le code de la route, là.
Voilà, c'est vraiment très, très substantiel. Et surtout, c'est par rapport au territoire qu'elle a couvert, cette enquête.
On a, sur les cinq continents.
Les cinq continents, pour résumer, donc... pratiquement tous les États européens de l'époque, hein, sauf l'Autriche, mais qui sortait de la guerre, les États-Unis, le Brésil, le Guatemala, l'enquête elle a même été à Las Vegas. Il y a eu également la Turquie et le Maghreb, tous les États du Maghreb jusqu'à l'Égypte. Donc vous voyez, c'est un territoire assez, assez considérable. Il a failli y avoir l'Australie, mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est une enquête gigantesque par la surface couverte. Et en France, hein, il y a eu vraiment des commissions d'enquête qui ont été envoyées dans chaque département. Il y avait 89 départements à cette époque-là. Et donc tout le territoire français a été concerné.
Puis il faut bien dire que oui, elle prend son sens, cette enquête, puisque Napoléon III s'est basé sur l'électorat rural lors du plébiscite de 1852. C'est aussi la période réformatrice de son règne. Napoléon III qui a aussi agi pour l'agriculture, puisqu'il y a à cette période l'assainissement de la des Landes, et donc qui donne lieu à la forêt des Landes. Donc c'est aussi un signal envoyé à cet électorat rural.
Oui. C'est clairement, hein, et ça a été montré, je le montre dans ma thèse, mais je ne suis même pas le premier à l'avoir dit, hein. Il y a une autre chercheuse, Nadine Vivier, qui l'avait montré un peu avant, que c'est vraiment, l'enquête, c'est avant tout une opération politique et médiatique de la part de Napoléon III. Il faut savoir qu'à partir des années 1860, donc on est à partir du milieu de son règne, Napoléon III perd de plus en plus de soutien politique dans l'électorat, et notamment il perd l'électorat catholique parce que il soutient l'unité italienne contre le pape. Et donc, là, il y a une crise, hein, j'en parle dans la thèse, qui commence en 1864, et il y a un mécontentement rural, et donc il y a une peur, hein, de la part du pouvoir impérial de perdre ce soutien. Et donc, on lance cette enquête. Vous avez parlé, évidemment, il y a un versant aussi, il y a un objectif à cette enquête, c'est pas uniquement politique, il y a un objectif économique qui a été un peu sous-estimé dans les dernières études sur l'enquête, que j'ai essayé un peu de réhabiliter, hein, c'est que ça reste quand même une enquête agricole. Et donc, vous avez parlé par exemple de l'assainissement des Landes, il y a aussi en Sologne, etc. C'est aussi dans ce prolongement, il y a une volonté de modernisation. Alors, même si on n'emploie pas le terme à l'époque, il y a une volonté en tout cas d'améliorer l'agriculture française, hein, d'en faire quelque chose de nouveau. Hein. On va peut-être en reparler tout à l'heure. En tout cas, une enquête importante, très importante sur ce plan-là également.
Vous avez également fait paraître deux articles dans The Conversation et sur l'université Rennes 2. Et c'est un article qui aborde justement le productivisme à la française sous Napoléon III. Vous y montrez notamment comment l'utilisation de la souveraineté alimentaire en ce moment par Arnaud Rousseau, le responsable de la FNSEA, ne date pas d'aujourd'hui. De la même manière, la logique productiviste, et vous montrez que justement elle fait partie de cette identité agricole depuis la fin du Second Empire.
Oui. Donc pour préciser, le terme de productivisme, il apparaît pour la première fois en 1900. C'est Ernest Solvay, c'est un industriel et un chimiste qui l'invente. Et ce n'est pas un terme qui est appliqué pour l'agriculture, mais vraiment pour l'industrie. Et c'est vraiment à partir de la deuxième partie du XXe siècle qu'on va vraiment l'appliquer à l'agriculture, on parle de productivisme agricole. Moi, ce que je montre dans cet article, c'est que sous le Second Empire, effectivement, il y a un économiste, hein, que je cite, qui s'appelle Édouard Lecouteux, personnage très important, sous-côté, on peut dire, dans l'histoire du général de la France au XIXe siècle. Et cet Édouard Lecouteux, donc, il publie notamment un traité, hein, qui s'appelle « Principes économiques de la culture améliorante » en 1955. Et en fait, quand on le lit, c'est assez incroyable, parce qu'on trouve, c'est presque un programme de ce qui va se faire presque un siècle plus tard, en fait, au moment de ce qu'on appelait la révolution verte ou la révolution silencieuse, hein, avec cette transformation radicale de l'agriculture. Et on voit en fait que déjà, il anticipe, hein, tout ça, et que c'est ce que j'essaye un peu de montrer dans l'article que j'ai écrit sur le site, que l'enquête, en quelque sorte, va donner une impulsion décisive à un mouvement qui va aller jusqu'à cette révolution verte des années 60, un siècle plus tard. Évidemment, faut pas se laisser piéger par une lecture téléologiste de l'histoire, mais il y a quand même quelque chose à retenir de tout ça.
Et surtout qu'il faut bien replacer cette révolution en quelque sorte agricole à ce moment-là, dans un contexte aussi d'industrialisation du domaine textile, avec toutes les conséquences que ça a, la réforme des canuts, mais dans les années 1830. Donc il y a aussi peut-être une inspiration du domaine industriel, purement industriel, du domaine agricole.
Il y a une volonté. Alors, pendant la première moitié du 19e siècle, là, et il faut remonter à plusieurs siècles pour ça, hein, les industries sont dans les campagnes. Il y a vraiment une désindustrialisation rurale à partir vraiment de la première moitié du 19e siècle et surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. Hein, sous le Second Empire, il y a un élan décisif. En passant, hein, ça a un impact considérable sur le travail féminin, hein, parce que c'était les femmes notamment qui étaient, étaient majoritairement les actrices de cette industrie rurale, textile notamment. Et donc, il va y avoir un transfert, donc une concentration dans les villes des industries. Hein, c'est là que vers les usines, etc., à partir de la fin du 19e siècle. Et donc, Lecouteux, par exemple, dans son traité là, que j'ai cité,
Principe économique de la culture améliorante,
voilà,
c'est ça.
Et c'est ça, c'est assez incroyable, c'est que lui, en fait, prévoit, il dit, vous inquiétez pas, les industries, un jour, elles vont revenir en campagne. Et en fait, bon, je ne rentre pas en détail, mais il prévoit presque ben, l'industrie agroalimentaire des années 1960, 1970, qui sera également, qui va être pourvoyeuse, enfin, très demandeuse en main-d'œuvre féminine. Hein, Il y a une volonté en parallèle de ça, hein, vous avez raison de parler d'industrie, c'est que le coûteux, son objectif, et il n'y a pas que le coûteux qui le dit, hein, c'est vraiment un discours général qui est tenu à l'époque, c'est qu'il y a une volonté de faire de l'agriculture une industrie. Hein, on parle d'industrie agricole, il y a une volonté de faire de l'industrie, et donc en fait sur le modèle tout simplement bah, de ce qui se fait dans l'industrie. Et donc le coûteux, dans cette logique-là, il va aller très très loin. C'est quelqu'un qui est en avance sur son temps, il est dans son temps et à la fois en avance sur son temps. Lui, il va vraiment presque anticiper alors ce qu'on a appelé un peu une organisation fordiste du territoire national. Hein. Alors, par exemple, il dit telle région doit être spécialisée dans telle agriculture, etc. En fonction de ses conditions naturelles, climatiques. Et ça aussi, hein, c'est quelque chose qui va s'organiser pendant les 30 Glorieuses. Hein,
c'est un affinage, en tout cas, à une échelle encore plus grande.
Voilà,
quoi.
Ce qui se fait en Bretagne pendant la Révolution silencieuse, c'est vraiment une organisation territoriale. Il y a un auteur qui a reçu le prix Albert Londres, Nicolas Lejean, de Silence dans les champs, il explique ça très bien. Eh bien, le goûteux, alors, lui, il le voit... Il y a tout un chapitre là-dessus, hein, sur cette géographie agricole de la France, comme il le dit très bien, et bien qui consiste vraiment à maximiser la production. Et par ça, hein, alors, on va peut-être en reparler dans un instant, mais il y a une volonté d'ouvrir cette agriculture, ces campagnes françaises qui dorment, comme il le dit très bien, à la concurrence internationale, et notamment... à une libéralisation et un abaissement des barrières douanières.
Et oui, puisque donc ce traité sort en 1855 et en 1860, c'est le traité Cobden-Chevalier qui abolit les taxes douanières sur les matières premières et la majorité des produits alimentaires. Il faut bien voir que ces mutations agricoles et cette enquête également, ça s'inscrit dans une concurrence avec les Anglais.
Oui, tout à fait. Il est question, c'est un peu c'est une question qui revient toujours, hein, ce qu'on appelle un peu la controverse de l'économie politique, hein, depuis le XVIIIe siècle, hein, sur la question entre libre-échange et protectionnisme. Hein. Protectionnisme, hein, le terme inspiré de l'anglais, justement, du début du XIXe siècle. Le traité Cobden-Chevalier de 1860, hein, il a une série de répercussions. Pour l'agriculture, c'est l'année suivante, en 61 plus précisément, c'est l'abrogation de l'échelle mobile qui en fait qui instaurait une prohibition sur les entrées de céréales. Et c'est par exemple Fernand Braudel, hein, qui est un grand historien, qui dit que c'est vraiment une date essentielle dans l'histoire de France. Hein. C'est vraiment à partir de cette date-là que en fait, la famine, le spectre de la famine, disparaît en France. Il parle également du rôle du chemin de fer, hein, qui se développe sous le Second Empire. Mais voilà. Et donc... À partir de ce moment-là, on avait une agriculture française. On parlait déjà d'agriculture française, mais c'était pas vraiment une agriculture unifiée. Il y avait des concurrences.
C'était des échelles plus restreintes. Voilà, c'était une agriculture de subsistance, peut-être plus.
Voilà. Même si il n'y avait pas que de l'agriculture de subsistance, mais en tout cas, c'était un modèle dominant. Pour la première fois de l'histoire. Les agriculteurs français, alors des cultivateurs français, ils vont être en concurrence avec des cultivateurs anglais, russes, polonais, italiens, espagnols, bref, il y a toute une série de nationalités. À partir de là, se posent des questions en fait, qui sont très contemporaines. C'est la question de la compétitivité de l'agriculture française. Et en fait, c'est drôle parce qu'on retrouve... les mêmes arguments quasiment que maintenant. L'agriculture française n'est pas assez compétitive par rapport à ses concurrentes. Il y a une concurrence déloyale, etc. On entre vraiment... c'est pour ça pour éviter un peu les anachronismes en parlant de productivisme, c'est pour ça que j'utilise le terme de paradigme productiviste pour en fait montrer que même si on ne parle pas de productivisme, il y a quand même une logique productiviste qui est antérieure à son apparition dans le discours, et qui en fait, on est toujours un peu dans ce domaine-là, même si évidemment, depuis quelques années, c'est quand même un modèle qui est battu en brèche, le modèle de l'agriculture conventionnelle.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que les Anglais ne tombent pas dans le panneau, ils vont aller donc chercher des céréales aux États-Unis, et donc les Français, les agriculteurs français tombent dans une certaine crise, mais ce sont surtout les grands propriétaires fonciers, parce que l'économie de subsistance, elle, se porte très bien. Par contre, l'État refuse en quelque sorte cet échec et donc va s'en prendre à l'agriculture de subsistance.
Oui, les Anglais ont aboli en fait le protectionnisme. Ils avaient leur échelle mobile à eux dès les années 1840. En 1846, c'est les Corn Laws. Et donc depuis cette abolition des Corn Laws, les agriculteurs français et notamment les propriétaires fonciers qui produisent en fait du blé. Pour l'essentiel, eh bien, on se dit chouette, on va pouvoir envoyer notre blé là-bas, vu que de toute façon, ils vont plus en produire beaucoup. Sauf que les Anglais, comme vous l'avez bien signalé, préfèrent acheter leur blé aux États-Unis. Ça peut paraître étrange, mais notamment pour des raisons culturelles. Il y a une solidarité anglo-saxonne, si j'ai envie de dire là-dessus. Les viticulteurs également sont pensés exporter leur vin en Grande-Bretagne. Malheureusement, les Anglais n'aiment pas trop le vin français. Alors, il y a tout un discours sur les stéréotypes anglais, ces Anglais qui n'ont pas de goût, qui ont un mauvais goût, qui ne savent pas ce qui est bon, etc. Il y a David Todd qui a écrit des belles plages là-dessus. Effectivement, en 64, dans les années 63, 64, 65, surtout 63, 64, sont des années, peut-être à ce moment-là, on n'a jamais autant produit de blé en France. Je rappelle que la France, c'est la première, dans les années 60, c'est le premier État producteur de blé de la planète. Après, ce sera les États-Unis, à partir des années 70-80. Mais à ce moment-là, c'est la première productrice de blé dans le monde. Il y a une chute du prix du blé. Les élites, notamment les propriétaires fonciers, mais également les grands fermiers capitalistes de la Beauce parisienne, qui sont de plus en plus influents politiquement. C'est un peu eux qui sont à l'origine de la Société des agriculteurs de France en 67. Ils exercent un lobby très puissant et c'est en raison, pour les apaiser, que le gouvernement va organiser l'enquête. Et dans cette enquête, l'un de ses objectifs aussi, c'est d'une part de mesurer les enquêtes à l'étranger sont effectuées pour un peu comparer les agricultures françaises et avec les autres agricultures étrangères. Mais il y a également, alors il y a un article que je publierai, qui va bientôt être publié, là, que j'ai écrit, il y a une volonté aussi, il y a un peu une espèce d'impérialisme agricole, si vous voulez, de la France, qui existe encore, qu'on retrouve vraiment dans les discours actuels de la crise.
D'ailleurs, notamment dans un article, où vous citez Gabriel Attal qui fait bien la part entre les paysans et les agriculteurs.
Voilà. Les agriculteurs, vraiment, il y a toujours cette... Il y a encore un rapport du Sénat qui était publié en 2002 qui parlait de l'intérêt géostratégique de l'agriculture. Il y a d'ailleurs un antagonisme entre l'Union européenne et la France de ce côté-là. Pour l'Union européenne, l'agriculture, c'est quelque chose de secondaire dans l'économie, pas pour la France. Et je termine donc par rapport à l'enquête. Il y a une volonté donc de trouver en fait des marchés, de nouveaux marchés, de conquérir de nouveaux marchés. Et par exemple, moi je prends l'exemple de l'Espagne. En Espagne, où vraiment il y a un protectionnisme très fort. D'ailleurs, le terme douane, ça vient, c'est originaire d'un terme espagnol à l'origine. Il y a une volonté, alors dans ces différents pays, de se déconvaincre que faudrait peut-être ouvrir vos barrières pour qu'on vous envoie notre grain, quoi. Et tout le monde y gagnerait, mais surtout la France.
Vous avez évoqué justement la création en 1867 de la Société des agriculteurs de France. Et déjà à cette époque, il y a un antagonisme entre ce syndicalisme plutôt agraire, on va dire, et un syndicalisme plus paysan, et qu'on retrouve aujourd'hui entre la Confédération paysanne et la FNSEA. Il y a déjà cet antagonisme.
Oui, alors... ce n'est pas un syndicat, hein, la Société des agriculteurs de France, qu'on appelle la SAF, qui existe toujours, hein, qui est devenu un think tank, donc créé en 1867, hein, dans la foulée de l'enquête, hein, parce que bon, celui qui en est à l'origine, c'est précisément Le Couteux. Donc, ce qui le rend encore plus fascinant de ce côté-là. Cette SAF, à l'origine, bon, c'est ce que je monte un peu dans ma thèse, c'est qu'au début, elle est un peu... Bon, elle n'est pas apolitique, mais elle a quand même un peu de toutes les opinions politiques. Hein. Elle a des démocrates, des bonapartistes, des libéraux, des conservateurs, jusqu'à la fin du Second Empire. Et c'est vraiment à la chute du Second Empire où ça va vraiment devenir une organisation vraiment à droite. Sous la République, au début de la Troisième République, ça va vraiment être une organisation anti-républicaine. Vraiment, ça va être une ligue de grands propriétaires orléanistes et légitimistes. Et la République... les républicains, donc notamment Gambetta, Léon Gambetta, va créer une société concurrente, en fait, la Société nationale d'encouragement à l'agriculture, en 1881, pour la concurrencer, hein, mais vraiment ça va être un syndicat ça va être une organisation de gauche. Et il y aura même quasiment dans la foulée la création du ministère de l'Agriculture, hein, vraiment un ministère de l'Agriculture autonome, hein, ça n'existait pas avant, justement contre cette société. Mais ça ne sera pas suffisant. Hein. Cette société, la SAF, cette organisation à droite, c'est elle qui va être à l'origine pratiquement de tous les syndicats agricoles qui vont apparaître sous la Troisième République. Ce sera très difficile l'organisation de gauche républicaine de lutter, même s'il y aura il va y avoir des inventions, des innovations de la part des deux organisations pour un peu se concurrencer entre elles. Par exemple, le Crédit Agricole, hein, est une création de la société de la SNEA. La SAF, dans l'entre-deux-guerres, va créer le Crédit Mutuel de Bretagne, par exemple en Bretagne, pour lutter contre cette influence. Vous voyez, il y a toute une... Il y a un affrontement qui remonte jusqu'à maintenant, en fait. Vous avez parlé, effectivement, de la FNSEA et de la Confédération paysanne. Ce n'est pas du tout le même poids politique. Hein. La Confédération paysanne, sur le plan syndical, elle ne pèse pas grand-chose. Hein. Je crois qu'elle domine une ou deux chambres d'agriculture en départemental. On en est à plus de 80 pour la FNSEA. Il y a toujours cette disproportion, hein, qui est en fait un peu inscrite génétiquement en France.
Une dernière question rapidement peut-être sur ce deuxième article que vous avez écrit sur la sémiologie peut-être du mot paysan. Vous passez en revue justement l'histoire de ce terme au Moyen-Âge chez la littérature du 19e siècle. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous parlez justement d'un terme qui est stigmatisé notamment au 19e siècle par certains auteurs. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'actualité par exemple?
Comme je le précise bien, c'est un terme polysémique, hein, paysan. À toute époque, hein, il y a toujours des connotations péjoratives et positives autour de ce terme. Néanmoins, on peut dire qu'il y a toujours un côté qui l'emporte sur l'autre. Et là, je dirais plutôt que c'est côté positif. Je parle notamment de l'aspect... Alors maintenant, il y a une instrumentalisation, mais on peut dire qu'il y a une mise en avant du paysan, du terme paysan, de la figure du paysan, pour des raisons marketing notamment. Hein, le paysan, ça renvoie, quand on parle de paysan, ça renvoie au producteur local, qui fait attention à la biodiversité, quelqu'un de confiance. Le terme de paysan fait aussi référence, hein, il y a toujours cette double sens, et là c'est vraiment une nouveauté, je trouve, aussi de l'époque, hein, c'est vraiment un peu la personne ancrée dans la terre. Bon, c'était déjà le cas, mais c'était pas mis autant en valeur. Et par exemple, je cite un tweet de Marion Maréchal Le Pen du 1er mars 2024 qui dit il y a deux groupes de dirigeants politiques en France, c'est ceux qui sont pour les paysans et ceux qui sont pour les migrants. Et elle dit, nous, on est toujours des côtés des paysans. Voilà, vous voyez, il y a une opposition qui est totalement stupide, parce que, il faut le dire, il y a les paysans migrants. Hein, donc, Vous voyez, il y a un peu cette instrumentalisation. C'est pareil pour Gabriel Attal. Gabriel Attal, il parle des paysans et des agriculteurs. Quand il parle des paysans, c'est à la fois donc, parce qu'il oppose le paysan donc, un peu le producteur local, justement, et l'agriculteur qui pratique une agriculture conventionnelle, productiviste, exportatrice. Et en même temps, Gabriel Attal, il veut, il a un peu, il reprend un peu ce langage, je dirais un peu chauviniste, nationaliste, qui veut en fait que le paysan, c'est la personne qui bouge pas, etc., qui reste sur sa terre, qui est ancré dans la tradition, qui est, c'est une façon un peu de rassurer la société, la société une société qui est un peu en perte de repère dans une mondialisation néolibérale. Et donc voilà, il y a un peu ces deux termes, mais bon, faut pas en douter, hein, que si jamais les choses évoluent, et elles évolueront certainement, il est possible que le terme de paysan variera encore
dans les prochaines années et
dans les prochaines décennies même. Ça j'en suis, j'en mettrai ma main à couper.
Bien, merci Anthony Hamon.
Merci.
On rappelle que deux de vos articles sont disponibles sur le site The Conversion et de l'Université de Rennes 2. Il vous suffit de taper « Agriculture, comment Napoléon III a permis le productivisme à la française et paysan », histoire d'un terme tour à tour stigmatisant et valorisant.